Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Pour découvrir ou redécouvrir le musée Electropolis de Mulhouse cet après-midi, notre invité n'est autre que le chef du service scientifique, Damien Kunz. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le musée existe depuis une paire d'années. Il a ouvert en 1992. Quelle était la vocation initiale de ce musée, de cet autre et musée supplémentaire de Mulhouse ?
Alors, la vocation initiale du musée Electropolis, ça a été de sauver une gigantesque machine à vapeur qui servait à fabriquer de l'électricité, qui se trouvait dans les établissements DMC, donc la fabrique du fil DMC, qui pèse 170 tonnes avec une roue de 6 mètres de diamètre et qui fait une quinzaine de mètres de long. Et l'objectif initial était de sauver cette machine. Et le musée s'est construit petit à petit autour de la machine, au propre comme au figuré. La machine est toujours là et on peut la voir tous les jours. Elle est d'ailleurs en fonctionnement.
C'est
puisque l'un des objectifs qu'a atteint le musée, ça a été de remettre la machine en fonctionnement.
Bien, alors vous allez découvrir ce musée Electropolis avec nous ce soir dans Ça vaut le détour. Mais Damien Kunz va surtout nous parler d'une exposition, très belle exposition. Alors les vilaines langues disent que ce n'est pas une exposition importante par sa taille, mais par son enseignement. Ça s'appelle Noël électrique d'antan à Electropolis et c'est à découvrir dans un instant dans Ça vaut le détour sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace. France Bleu. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux.
Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. C'est un lieu étrange dans lequel on découvre les pionniers de l'électricité, mais aussi toutes les évolutions que l'électricité a apportées à notre société. C'est là que nous attend notre invité à l'occasion d'une très belle exposition autour de Noël. Électropolis.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Il est le chef du service scientifique à Électropolis. Alors c'est un peu ronflant comme titre comme ça, mais Damien Kuntz, quelle est votre mission exacte sur place à Électropolis, à Mulhouse?
Alors ma mission exacte est de m'occuper de tous les contenus du musée, à savoir les contenus un petit peu immatériels, c'est-à-dire l'histoire qu'on y raconte finalement, donc de connaître l'histoire de l'électricité pour être un petit peu la personne référente dans ce domaine-là. Mais c'est aussi et surtout la gestion des collections du musée. Les collections du musée, ce sont plus de 12 000 objets et c'est une collection qui est très vivante. Hein. C'est pas du tout, sont pas du tout des objets qui prennent la poussière sur des étagères.
Oui.
Il y a en permanence des expositions, des modifications dans le musée, de nouvelles acquisitions, des objets qui sont prêtés à l'extérieur. Et donc, une collection est en perpétuel mouvement dont je m'occupe.
Alors, avant de nous arrêter à cette exposition Noël électrique d'antan, dites-nous un petit peu, en dehors de cette immense machine Sulzer, qu'est-ce qui nous accueille quand on pousse les portes du musée Électropolis à Mulhouse ?
Alors, la première chose que vous voyez lorsque vous entrez dans le musée, c'est qu'une gigantesque anamorphose, c'est du street art, représente Zeus. Et Zeus, c'était pour les Grecs le dieu de la foudre.
Ah oui.
Et nous, notre idée, c'est de raconter l'histoire de l'électricité depuis le moment où on l'expliquait, l'électricité, sans même savoir ce que c'était, à travers des dieux, des mythologies, des personnages qui lançaient la foudre, jusqu'à nos jours.
Alors une fois qu'on a compris les croyances liées aux foudres divines, en quelque sorte, on arrive dans les premiers espaces des pionniers de l'électricité, j'imagine.
Les pionniers de l'électricité ont travaillé dans les cabinets de curiosité du 17e et du 18e siècle, puisque les premières recherches scientifiques sur l'électricité, avec les moyens du bord, qui étaient très astucieux à l'époque, se sont faites à partir de 1600, très précisément. Et donc, on peut voir au musée ces machines, on peut en voir le fonctionnement aussi, puisqu'on fait tous les jours des expériences d'électricité statique. On essaie de montrer un peu comment, petit à petit, on a compris l'électricité avec des expériences finalement assez simples. Et bien sûr, la suite de l'histoire de l'électricité, eh bien, c'est l'arrivée de l'électricité dans nos foyers, qui s'est faite très, très, très progressivement, puisque vous pouvez voir au musée des appareils ménagers des années 50, 60, 70, même 90, mais vous pouvez aussi voir des appareils des années 1890, à une époque où c'était des appareils extrêmement rares et extrêmement chers, et où surtout, pour les faire fonctionner, il fallait avoir de l'électricité, ce qui n'était pas forcément une évidence pour tout le monde. Le but du musée, c'est aussi de faire comprendre l'électricité. On a un public qui est quand même très très jeune. On a plus de la moitié de nos visiteurs qui ont moins de 18 ans, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les musées. On en est très fiers. Et on arrive, à travers les collections du musée, à comprendre ce que c'est que l'électricité, comment ça fonctionne, ce que c'est que l'électricité statique, pourquoi il y a des charges positives et négatives, ce qu'elles font quand elles se rencontrent, etc. etc. La découverte de l'électricité à travers son histoire est aussi un très bon moyen de la comprendre.
Damien Kuntz est le chef du service scientifique du musée Électropolis de Mulhouse. Nous allons dans un instant évoquer, alors ces découvreurs de l'invisible, mais aussi l'arrivée de celle qu'on appellera plus tard la fée électricité. Restez avec nous parce que vous allez être surpris comment déjà la publicité au début du 20e promettait des Noëls illuminés. C'est ce soir dans Ça vaut le détour et en ce moment à voir à Électropolis à Mulhouse.
France Bleu Alsace, info, trafic et mobilité en temps réel.
Mulhouse, où justement on a toujours des petites perturbations. Alors en arrivant au centre-ville, ça devient de plus en plus compliqué de circuler. Gutenberg, Franklin, Kennedy, je vous donne le nom des artères les plus encombrées ce soir. On a un peu de monde aussi qui essaye de s'extirper de Brunstatt pour repartir vers Mulhouse. Prenez ça en compte. Enfin surtout, un nouveau ralentissement est arrivé sur nos écrans. Si vous circulez de Village Neuf à Huningue ou de Huningue à Saint-Louis, ben vous serez rapidement dans les encombrements. Le retour sur sur la 35 est plus que pénible et cette A35 est elle-même encombrée entre l'Euro Airport et la sortie vers Blotzheim.
France Bleu Alsace, info, trafic et mobilité en temps réel avec la Chenaudière, relais et château 5 étoiles, spa d'exception sur 2500 m² et création de coffrets cadeaux. À retrouver sur chenaudière.com.
Bonjour, c'est Céline Dion.
Découvrez sur France Bleu Imperfection, extrait de Courage,
le prochain album de Céline Dion.
I try to give all myself to you, but before I can get there, got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide. I got my own imperfections. I can't hold your heart when I'm fixing mine. So give it up, give it up. I ain't gonna say.
Electropolis, l'aventure de l'électricité, est avec ses 4000 m² le plus important musée d'Europe sur l'histoire de l'électricité. Ça valait bien une visite ce soir, non, quand même?
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
L'ambition du musée Électropolis de Mulhouse, c'est de donner l'invisible à voir. Alors, on joue sur la mise en scène, on joue sur le spectaculaire. Et là, en ce moment, on joue sur la nostalgie avec une exposition Noël électrique d'antan à Électropolis. Damien Kuntz, je rappelle que vous êtes le chef du service scientifique. Alors, on a parlé de ces pionniers de l'électricité. On parlait d'électricité statique tout à l'heure. Le 20e siècle, c'est vraiment l'essor de la fée électricité.
Le 20e siècle, c'est vraiment le moment où l'électricité va progressivement commencer à entrer dans nos villes et dans nos foyers. Ça va se faire très timidement et très progressivement sur des décennies et des décennies. Il ne faut pas du tout imaginer que d'un seul coup, toute la France s'allume. Ça commence au début par l'éclairage public.
Ah oui, c'est ça, les lampes à
incandescence,
c'est le début. L'éclairage
domestique, on a une lampe.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Est-ce qu'au début, on sait que l'électricité peut servir pour s'éclairer? Est-ce qu'on sait déjà qu'elle va servir ou qu'elle peut servir à autre chose, cette électricité, à ce moment-là?
À partir des années 1880, on sait qu'elle peut servir à beaucoup, beaucoup de choses, puisque l'essentiel de la science électricité est connu. On sait comment ça fonctionne. Elle est mûre pour entrer dans le domaine des applications, pour enfin servir à quelque chose.
Oui, oui.
Et on imagine énormément de choses. On imagine d'ailleurs bien plus de choses qu'il ne s'en est produit aujourd'hui.
Ah oui.
Par exemple, la voiture électrique, c'est quelque chose dont on parle déjà en 1880 et qui existe déjà en 1880.
Avec la jamais contente, par exemple.
Beaucoup de... Alors, même avant la jamais contente.
Ah oui.
L'un des inventeurs de la voiture électrique en France, c'est Gustave Trouvé, qui fait ses premiers tours de roue dans les années 1880 à Paris. Mais on imagine aussi des inventions électriques qui sont parfois un petit peu farfelues,
oui.
Parce que on pense, comme toujours, lorsqu'une nouvelle technologie arrive, que ce soit l'électricité, le radium ou tout ce que vous voulez,
oui.
On a toujours l'impression que ça va résoudre tous les problèmes. Et donc on vivait dans ces années 1880 à 1900 dans une espèce d'électromania permanente où tout devait, tout pouvait, tout allait forcément devenir électrique.
Ah oui.
Alors nous, on montre par exemple toutes sortes d'appareils médicaux qui sont assez drôles, puisque l'objectif initial était de guérir toutes sortes de maladies,
oui.
Et que concrètement, ce qu'on était en train de faire, c'était tout simplement de s'électrocuter.
Mais c'est magnifique. J'ai lu quelque part qu'à la fin du 19e, l'électricité devient déjà une source de plaisir. Je m'explique. C'est-à-dire que la lumière provoquée, produite par l'électricité, vont éclabousser jusqu'aux ballerines de l'opéra qui, paraît-il, portaient déjà des bijoux lumineux sur scène.
C'est tout à fait vrai. Le monde du spectacle s'empare très très vite de l'électricité. Pour deux raisons. D'abord, elle permet des effets scéniques, comme les bijoux électriques, par exemple, qui n'est absolument pas possible de faire avec le concurrent de l'électricité alors qui était le gaz.
Oui.
Et l'autre aspect, c'est qu'elle offre dans les théâtres, les casinos, les maisons d'opéra, une sécurité qu'à l'époque, le gaz ne garantissait pas forcément.
Mais oui, on l'appelle la fée électricité dès qu'elle arrive dans les foyers, cette électricité?
On l'appelle la fée électricité même avant qu'elle arrive dans les foyers. La fée électricité, son problème, c'est qu'on ne la voit pas.
Ah oui.
Le gaz, au moins, ça se sent,
même
si c'est dangereux. Oui. L'électricité, c'est quelque chose d'invisible, il ne faut surtout pas y toucher. Comment voulez-vous vendre ça à quelqu'un?
C'est énorme.
Surtout quelqu'un qui vit en 1880.
Bah oui, bien sûr.
Et donc, les électriciens ont en partie inventé ce personnage de la fée électricité pour lui donner aussi une image un petit peu rêveuse et pour essayer de la matérialiser de leur mieux.
Alors cette électricité va peu à peu faire entrer ce qu'on appellera les serviteurs électriques. C'est de ça dont on va parler dans un instant avec vous, Damien Kuntz. Je rappelle que vous êtes le chef du service scientifique. Et puisque tout a commencé par l'émerveillement produit par les lumières électriques, nous conclurons avec cette exposition actuelle, Noël électrique d'antan à Électropolis. Restez avec nous parce que là encore, il y a quelques surprises. À tout de suite.
Ça vaut le détour. Thierry Calot.
Colruyt, mon supermarché de proximité. Oh oh oh, Mère Noël, tu as vu, il y a tout ce qu'il faut pour nos repas de fête chez Colruyt. Fête, route,
mais non, indé, Colruyt, évidemment.
Ah oui, c'est ça, Colruyt.
À ne pas manquer dans votre supermarché de proximité Colruyt, tout pour préparer de délicieux repas de fête. De l'apéritif au dessert, partagez de merveilleux moments avec vos proches autour de nos savoureux produits.
Colruyt, proximité et prix bas.
À Audincourt, Bétoncourt, Del, Grandvillard, Montrechâteau, Offemont et Sermamani.
C'est déjà Noël à Europa Park. Dans un décor enchanteur, montez à bord d'attractions époustouflantes et assistez à des spectacles féeriques dans le meilleur parc de loisirs au monde. Et réservez dès maintenant vos billets pour le nouvel univers aquatique d'Europa Park. Roule un petit car. Europa Park, s'évader, s'éclater ensemble.
Shopping de Noël féerique. Découvrez le cadeau idéal ou la tenue pour briller durant les fêtes parmi 130 marques premium. Ce sont déjà les soldes avec des réductions supplémentaires sur des prix déjà réduits. Zweibrücken Fashion Outlet vous souhaite de joyeuses fêtes. Ouvert dimanche 29 décembre de 13 à 18h. Pour Noël, offrez un livre XO.
Le loup des cordeliers d'Henri Leuvenbruck. Une intrigue fascinante au premier jour de la Révolution française.
XO, lire pour le plaisir. Pour Noël, offrez un livre XO.
Le bord de l'abîme de Bernard Minier. Un thriller glaçant au cœur de Hong Kong dans la firme la plus secrète du monde.
XO, lire pour le plaisir.
J'acceptais par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
À quel moment les instruments s'électrifient? Et ici en Alsace, quand avons-nous bénéficié dans les maisons de l'arrivée de l'électricité? Peut-être que Damien Kunz, le chef du service scientifique de Electropolis, le musée de l'aventure électricité de Mulhouse, nous apportera quelques réponses. On revient vers lui dans un instant.
France Bleu Alsace, info, trafic et mobilité en temps réel.
Aïe aïe aïe! Pardon, mais il faut le dire comme ça parce que c'était compliqué tout à l'heure en partant de Villageneuve ou de Huningue pour repartir sur la 35. Ça l'est davantage encore. Et maintenant, effectivement, nous avons des ralentissements qui sont positionnés sur la sortie autoroute depuis Saint-Louis, enfin sur l'entrée de l'autoroute à 35 depuis Saint-Louis et jusqu'à l'Euro Airport. Plus haut, on a retrouvé une circulation plutôt fluide. À Mulhouse, vous êtes dans les mêmes encombrements. Le réseau autoroutier sur la 36, rien à signaler. Mais alors la route express nord-sud, c'est compliqué. si vous êtes de Kingersheim, en train de rouler vers Wittenheim ou bien de repartir vers la route du Florival, vous allez également perdre beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, à Strasbourg, que se passe-t-il? Bien, le monde est arrivé également avec David, un point depuis le Sirac, le PC Route. Bonsoir David.
Bonsoir Thierry.
Bon, alors là, c'est sur les autoroutes en l'occurrence que les bouchons, les ralentissements sont les plus nombreux.
Oui, des ralentissements assez conséquents sur l'axe principal à 35. Dans les deux sens de circulation, au niveau des temps de parcours, c'est assez homogène. Hein, mais tiens, grosso modo, un bon quart d'heure, voire 20 minutes de plus dans les deux sens. Entre la Vigie et le virage de Cronenbourg, c'est assez équitable. Ça coince un petit peu à la toute fin de la 351 pour s'insérer sur la 35. Et pas mal de monde du côté de Fegersheim pour aller vers la 35 et vers l'espace de la Vigie. Seule bonne nouvelle dans le secteur, c'est que maintenant, au niveau du chantier de Istratzheim-Fegersheim, toutes les voies sont ouvertes en direction du sud. En revanche, l'A4 direction Brumath, avec la zone de travaux, ça reste encore compliqué depuis le virage de Cronenbourg jusqu'à l'échangeur de Reichstätt. Pas mal de monde encore à ce niveau-là. Pour ce qui est du réseau urbain, c'est assez chargé sur l'avenue du Rhin, notamment dans le sens Allemagne-France, depuis l'esplanade, avec une insertion difficile sur l'A35. Beaucoup de monde également qui quitte le secteur de Wacken-Schildigheim, hein, donc patience pour rejoindre les autoroutes, c'est compliqué. Et au niveau de l'avenue des Vosges, beaucoup de monde depuis la place Brandt en direction de la place d'Haguenau. Entre la place de Bordeaux et l'allée de la Roberto, ça circule plutôt bien. Et puis ça se charge malheureusement fortement depuis sur la route de Schirmeck, depuis la Montagne Verte pour rejoindre l'Ingolsheim. Secteur gare, circulation chargée comme à l'accoutumée. Puis au niveau de la fréquentation des parkings, on a encore deux parkings complets. Il s'agit du relais de la Rotonde et d'Austerlitz.
Eh bien, ça promet. On suit tout ça avec l'attention nécessaire, évidemment. On revient vous voir un petit peu plus tard au Sirac. À tout à l'heure. Bon, je voulais revenir rapidement sur les encombrements aux portes de Mulhouse. Grâce à vous, amis patrouilleuses et patrouilleurs, au 03 88 25 02 02. Alors, vous nous dites qu'en venant de Riedisheim, on a des bouchons à répétition sur l'avenue de Riedisheim. On a, quand on se dirige vers Mulhouse, circulation très compliquée si vous êtes sur l'avenue du Maréchal de Lattre. On a, alors, dans une rue qui s'appelle la rue des Tondeurs, une vraie perturbation. Boulevard Vallard également. On a du monde également si vous circulez sur la rue Jacques Price. Et puis, un petit peu plus au nord, l'avenue Aristide-Briand, très, très, très compliqué d'arriver de la rue Aristide-Briand jusqu'à l'intersection avec la rue de Fastat. Si vous avez d'autres infos trafic, 03 88 25 02 02. Bus et tramway à Strasbourg, où sont-ils à l'heure, en retard? C'est Émilie qui va nous renseigner depuis la CTS. Bonsoir Émilie.
Oui, bonsoir.
Bon, les bus en retard, hein, surtout.
Alors oui, hein, je vais rejoindre un peu mes collègues du CIRAC. C'est vrai que pour nous, ça commence vraiment à se charger niveau circulation bus, hein, suite à difficulté de circulation. On a pas mal de grandes lignes, hein, centrales qui sont concernées, jusqu'à 8 à 10 minutes de retard, comme entre autres la ligne L1, 2, L3, 4, L6, 10, 24, 30, 70 et 72. Circulation normale, hein, pour les autres en ligne bus et tram. Mais c'est vrai que ce soir, c'est un tout petit peu compliqué la circulation.
On a noté tout ça, on vous souhaite de bien terminer la journée à la CTS, Émilie.
Ben merci, de même.
Bonne soirée.
France Bleu Alsace, info, trafic et mobilité en temps réel avec la Chenaudière, relais et château 5 étoiles, spa d'exception sur 2500 m² et création de coffrets cadeaux. À retrouver sur chenaudière.com.
Ouvert en 1992 à Mulhouse, le musée Electropolis raconte l'histoire de l'électricité, de la foudre jusqu'à la révolution industrielle et jusqu'à nos prises de courant dans les maisons. Nous sommes 55 rue du Pâturage pour découvrir cet endroit.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Si vous ne le connaissez pas, le musée Electropolis de Mulhouse raconte la grande histoire de l'électricité, alors à travers les rapports que l'homme a entretenus avec elle, mais aussi en suivant la chronologie de son développement. C'est ce que nous explique ce soir Damien Kuntz, le chef du service scientifique d'Electropolis. Alors je le disais, après l'émerveillement provoqué par les lumières électriques, on essaie de rendre la vie plus facile. L'arrivée des premiers appareils électriques dans les ménages, j'entends, c'est quoi? C'est les années 20, Damien?
En fait, ça dépend des appareils. Dans les années 1920-1930, on a certains appareils comme le fer à repasser, par exemple, qui commence à se répandre. La bouilloire qui marche pas mal aussi. Ou curieusement, ce qu'on appelle la douche chaude électrique et qu'on appelle aujourd'hui le sèche-cheveux. Mais les gros appareils tels que le réfrigérateur, le lave-linge ou des choses un petit peu plus perfectionnées techniquement ne vont se répandre que dans les années 1950, voire 1960-70.
Oui, parce que dans les années 20, j'imagine que les abonnés à l'électricité ne doivent pas courir les rues non plus.
Ça dépend des régions. Ah, oui. L'électrification de la France se fait de façon très très disparate. En Alsace, on a eu de la chance. On a eu un très très bon taux d'électrification pour de tas de raisons historiques, politiques, économiques et autres.
Oui.
Ce qui fait que dans les années 1920, 90% des Alsaciens avaient déjà accès à l'électricité.
C'est énorme, c'est énorme. C'est le début de la réclame aussi, l'électricité.
L'électricité va se servir énormément de ce qu'on appelle la réclame, la publicité, la propagande, avec des moyens qui sont pas toujours très différents que ceux qu'on emploie aujourd'hui. Lorsqu'on voit les anciennes revues d'électricité et qu'on voit les trésors de publicité qui étaient déployés, on se rend compte que on n'a pas toujours inventé grand-chose. Par exemple, le fait de recevoir une facture d'électricité avec de la publicité dessus et qui était saisonnière, c'est-à-dire que pour le mois de novembre, vous aviez de la publicité pour le radiateur, en décembre, vous avez de la publicité pour les cadeaux de Noël, en août, c'était le ventilateur,
ouais.
C'est quelque chose qui existait déjà dans les années 1920 à 1940.
Alors, si vous allez à Electropolis, vous allez découvrir cette frénésie de l'électricité, du serviteur électrique qui arrive dans la maison, et vous allez pouvoir jouer, alors ça s'appelle quoi, le ribouledingue, c'est ça, Damien Kuntz?
C'est un petit jeu électrique des années 1920 qu'on s'est amusé à reconstituer dans une partie du musée, où vous avez aussi des films anciens qui sont projetés, où on voit comment, à travers le film, on essayait de populariser l'électricité à l'époque, avec notamment un film qui a été tourné en Alsace en 1929, qui est absolument incroyable.
Alors, le ribouledingue, c'est une sorte de flip, c'est lancer du flipper, à peu de choses près, non, c'est ça?
Tout à fait, c'est l'ancêtre du flipper, oui, oui. La grande nouveauté à l'époque, c'est qu'il était électrique, parce qu'il existait déjà d'autres jeux non électriques, et tout ce qui était électrique était forcément mieux.
17h40, on revient vers vous dans un instant. Damien Kuntz, vous nous raconterez comment vous avez composé cette très belle exposition actuellement à Electropolis, Noël électrique d'antan, où on mélange à la fois affiches publicitaires et objets qui étaient le must des années 1950.
Joyeux Noël sur France Bleu Alsace.
Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes
And what we see is no surprise. Caught a feeling lost for treasure.
Les plus belles mélodies sur France Bleu Alsace, les plus beaux endroits à découvrir en cette période festive où il y a autre chose à voir que les marchés de Noël.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
En ce moment à Electropolis à Mulhouse, c'est une exposition alors très riche d'enseignements que vous pourrez découvrir jusqu'à la fin de ce mois de décembre, à Noël électrique. Ça rassemble une petite quantité d'objets, mais aussi d'affiches qui datent du siècle dernier. Damien Kuntz, chef du service scientifique à Electropolis, vous l'avez conçu comment cette exposition temporaire sur le Noël électrique d'antan ?
Eh bien écoutez, ça faisait très très longtemps qu'on avait envie de la faire, parce que nous avons une très très belle collection d'affiches et de publicités anciennes, dont un certain nombre évoquent le thème de Noël. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une image qui revenait encore et toujours jusque dans les années 60, qui était l'image du mari qui offrait un appareil électrodomestique à son épouse.
Ah oui.
Et on a trouvé que c'était assez drôle parce que il y a des publicités qui feraient bondir des associations féministes aujourd'hui.
Ça j'imagine, oui, oui. Mais alors ça voulait dire qu'à Noël, la publicité tournait autour de l'objet électrique ?
Oui, tout à fait. C'était un cadeau high-tech, déjà, à l'époque.
Ouais, ouais, ouais.
Et, il ne faut pas l'oublier. Hein. Aujourd'hui, on est tous habitués à utiliser des appareils électriques. En 1930, c'est pas forcément le cas. Donc, il y a un côté quand même un petit peu prestigieux. Parfois, c'est Noël qui donne le top départ pour un investissement important.
Oui.
Par exemple, un lave-linge électrique ou un réfrigérateur qui représentait quand même plusieurs mois de salaire pour
oui.
un, bon, on va dire pour un salaire moyen. Hein.
Oui, oui.
Et puis il y a aussi le côté un petit peu loisir de l'électricité à travers la radio, à travers les tourne-disques, les appareils de cinéma, par exemple, dont on présente quelques exemplaires. Et souvent, ils étaient lancés autour de la période de Noël. On mêle en fait les publicités de l'époque et les affiches publicitaires de l'époque et d'autres supports publicitaires qu'on peut découvrir, mais aussi un certain nombre d'objets qui étaient vendus à l'époque comme étant des cadeaux de Noël. Et donc, on s'est amusé à reprendre une revue de 1961 avec les pages, les idées cadeaux de l'époque,
oui.
et à faire une vitrine dans laquelle nous avons intégré les idées cadeaux Noël 1961 avec la friteuse, avec l'aspirateur, avec le rasoir pour monsieur, etc., etc.
Cette exposition temporaire sur le Noël électrique d'antan, ça se passe au musée Electropolis à Mulhouse. Le musée est ouvert tous les jours.
Alors, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf le lundi. Et le 24 et le 31, nous fermons exceptionnellement à 16h.
Et l'exposition Noël électrique d'antan se termine le 29 décembre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous, Damien Kuntz.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. On m'appelle aussi parfois Monsieur 110 volts.
À très vite, Damien Kuntz.
From a distance, I've got
like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.
Celles et ceux qui commanderaient, qui nous écoutent à Orode, étaient amoureux de l'aîné Marlene quand ils étaient petits. C'est cadeau, c'est la maison. Ça, c'est cadeau, c'est inventé, c'est le moment du courrier des auditeurs avec Jean-Philippe Pierre.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Bonsoir Jean-Philippe Pierre.
Bonsoir Thierry.
Alors par qui on démarre ?
De Madame Sceptique de Belfausse. J'ai lu qu'une chef de Los Angeles a banni la traditionnelle dinde arrosée au jus de viande par un menu 100% vegan avec une simili dinde au pois chiche, fourrée à la tomate, au bouillon de champignons et au vin rouge. Je la fais pour Noël. Allez plutôt au restaurant.
Ça me fait penser à une recette de Mireille de Marseille dans Les Chevaliers du Fiel.
De Monsieur Ilvaux de l'Or. J'ai entendu dire qu'un hôtel strasbourgeois propose une chambre d'hôtel connectée, entièrement pilotable par la voix, où on peut tout contrôler par la voix, la lumière, le chauffage, les rideaux, la télévision et même un diffuseur de parfum. C'est formidable, non ? Oui. Je suis curieux de savoir si la reconnaissance vocale fonctionne encore après avoir attaqué le minibar.
Oui.
J'ai rien encore à ouvrir à la voix. De Madame Centrale de Fessenheim. C'est du joli. Une enseigne états-unienne de distribution a annoncé avoir retiré de son site canadien un fameux pull de Noël faisant l'apologie de la cocaïne. On y voit un Père Noël extatique, une paille à la main, trois lignes blanches tracées sur une table devant lui, et on y voit écrit « Let it snow », autrement dit « Tombe la neige ».
Oui.
Oui, d'accord, c'est choquant. Mais en même temps, comme dirait l'autre, pour acheter un des fameux pulls moches de Noël,
oui,
il faut aussi être dans un état second, non
un peu.
Bon, j'ai connu quelqu'un qui s'est réveillé avec un pull moche, mais après vérification, il s'agissait de son tricot normal, sur lequel il avait vomi avant de tomber dans son lit.
Sûr que ça allait finir joyeusement.
Et enfin, de Monsieur Boudubar de Queutzingue, j'ai un doute. Un chef d'orchestre chinois, ça dirige son orchestre comment ?
Oh non.
Non, vous m'aurez pas. Avec une fourchette.